Et ensuite, eh bien, je vais passer à ma deuxième partie. Je lis la thèse de cette partie. Pour être heureux, il ne faut donc peut-être pas satisfaire tous ses désirs, mais accepter de les limiter et de les modérer afin de faire du bonheur un idéal réalisable. Il faudrait donc être raisonnable et tempérant. Alors, au niveau de la construction de l'argumentation de cette partie, je commence directement par la référence. Vous n'avez pas d'obligation particulière dans l'organisation de vos références, exemples, arguments. C'est possible de commencer par une référence et ensuite de passer à une argumentation un peu plus personnelle. Donc évidemment, je vous invite ici à faire une pause dans le corrigé et à aller lire le texte, qui est le texte d'Épicure. Pareil, essayez de faire des repérages. Et ce qui n'est pas évident dans ce texte, c'est qu'il est... Alors, il établit Épicure une classification des désirs, et cette classification, elle est très très abstraite. Donc, vous verrez dans le, sur le site Au fil de l'eau, sur la page consacrée à ce chapitre, vous verrez qu'il y a un petit jeu... Enfin, oui, une petite application qui permet d'avoir une vision un petit peu plus concrète de cette classification des désirs. Donc, je vous invite aussi à essayer de répondre à ce quiz après avoir lu le texte d'Épicure. Avant de reprendre la lecture de se corriger sur Épicure, je tiens à préciser une chose, c'est que généralement dans le langage courant aujourd'hui, quand on parle d'un épicurien, de quelqu'un qui est épicurien, on a tendance à parler, en tout cas on utilise cet adjectif, pour parler de ceux qui aiment se faire plaisir dans la vie. Donc on identifie épicurien et hédoniste. Alors c'est pas entièrement faux, les épicuriens... Et, enfin, en tout cas, la doctrine d'Épicure est une doctrine hédoniste, mais c'est un hédonisme qui est très, très, très modéré. Et vous remarquerez dans le texte d'Épicure que, en fait, Épicure répond à ses propres contempteurs, ceux qui finalement l'identifient à un hédoniste radical, et il s'en prévient en disant que, bien non, ces gens n'ont pas compris sa doctrine. Donc, le but ici, c'est de bien comprendre cette doctrine, parce que finalement, l'adjectif épicurien qu'on utilise aujourd'hui dans le langage courant, il fait cette erreur d'identifier l'épicurisme à un hédonisme un petit peu non réfréné comme celui comme celui de Calliclès. Je reprends la lecture. La doctrine d'Épicure est emblématique de cette position. En effet, il s'agit bien d'une doctrine eudémoniste, car le but de l'action humaine est le bonheur, mais pour Épicure, le bonheur réside dans l'ataraxie, c'est-à-dire dans la tranquillité de l'âme, et dans l'aponie, la tranquillité du corps. Si le désir est une tension interne liée à la conscience d'un manque et incitant l'individu à combler ce manque, alors la présence du désir est par essence un trouble pour le corps ou pour l'âme. Cela ne signifie pas qu'il faut éliminer tout désir, ce qui est impossible, mais que l'on doit agir sur eux pour les modérer. Alors, vous aurez remarqué ici que, bon, évidemment, je résume la doctrine d'Épicure, mais j'en profite pour amener un certain nombre de définitions de termes qui sont des termes assez techniques, comme le terme eudémonisme. Donc, le démonisme, c'est la doctrine qui considère que le but ultime de nos actions, c'est le bonheur. J'en profite aussi, évidemment, pour définir les termes techniques, ataraxie, aponie. Donc c'est pas très compliqué, c'est des mots qui sont des mots grecs, en tout cas tirés du grec. L'ataraxie, tranquillité de l'âme, l'aponie, tranquillité du corps. Et j'en profite aussi pour donner une certaine définition du désir comme tension interne, et donc expliquer pourquoi le désir est quelque chose de problématique chez Épicure, puisque cette tension, cette souffrance liée au désir, évidemment, c'est ce qui s'oppose à la tranquillité de l'âme. Donc j'ai deux solutions pour être tranquille et pour atteindre l'état qui, pour Épicure, correspond au bonheur. Donc bonheur égale tranquillité, hein, chez Épicure. Donc j'ai deux solutions. Soit je satisfais mes désirs, soit ben, je modère ces désirs. J'agis sur ces désirs, j'évite, je vais essayer de ne pas de les mettre de côté, en fait, de les exclure, ces désirs. Et comment je vais faire? Eh ben, je vais sélectionner dans mes désirs ceux que je vais devoir satisfaire. Ce sont les désirs nécessaires ou certains autres désirs, et ceux que je vais devoir exclure parce qu'ils m'apporteront toujours du malheur, du trouble. Je continue ma lecture. Comment cela est-il possible? Il faudra apprendre à connaître et à reconnaître nos désirs pour les trier et tirer du plaisir, de la satisfaction, des désirs qui sont réellement essentiels pour nous. C'est en effet pour Épicure la connaissance des désirs qui fonde notre capacité à agir sur eux. Dans la lettre à Ménécée, il opère une classification des désirs, il distingue les désirs qui sont naturels et les désirs qui sont vains, la richesse pour elle-même, le pouvoir pour lui-même, le luxe, les honneurs. Puis, parmi les désirs qui sont naturels, il distingue ceux qui sont nécessaires à la vie, boire, manger, à la tranquillité du corps, l'hygiène, le sport, au bonheur, la connaissance, et ceux qui ne sont pas nécessaires. Le désir sexuel est nécessaire pour l'espèce mais pas pour l'individu. Il faut donc faire le tri dans nos désirs, repousser au maximum les désirs vains qui nous troublent en nous détournant de ce qui est essentiel et ne satisfaire que les désirs qui sont naturels. Alors, si vous avez fait le petit quiz, vous voyez que j'ai repris pour expliquer ici la classification des désirs d'Épicure, j'ai repris des exemples de ce quiz. Donc, dans le texte de la lettre à Ménécée, c'est très abstrait. Dans mes parenthèses, j'ai mis les exemples qui correspondent ou qui dont je pense qu'ils correspondent à cette classification faite par Épicure, parce que Épicure n'a donné strictement aucun exemple. Donc il y a des désirs nécessaires, il y a des désirs vains, et puis il y a ceux qui sont naturels, et puis ceux qui sont non naturels, et puis il y a ceux qui sont nécessaires et ceux qui sont non nécessaires. Donc c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Donc je vous invite à essayer de faire un petit arbre de tous ces désirs. Donc, vous allez pouvoir mettre en haut de l'arbre désir, puis faire deux branches avec les désirs naturels d'un côté et les désirs vains d'un autre côté. Les désirs vains, Épicure n'en dit plus rien. Généralement, ce sont ceux qui sont liés à la société, aux normes sociales, la richesse, les honneurs, la gloire, etc. Pourquoi ce sont des désirs vains? Ils sont vains parce qu'ils sont inutiles, en fait. Ils ne mènent à rien, si ce n'est à continuer d'être toujours dans la recherche de les satisfaire. Celui qui cherche la richesse, il ne sera finalement jamais satisfait et voudra en avoir toujours plus. Idem pour les honneurs, etc., etc. Alors que finalement, avec les désirs nécessaires et naturels, pardon, avec les désirs naturels, on a quelque chose de plus simple. J'ai un désir, je le satisfais, je suis bien pendant un temps. Peut-être il va revenir, notamment si c'est un désir nécessaire comme la faim ou la soif. Mais y a un moment où je suis bien. Avec les désirs vains, en fait, je ne suis jamais bien. Je suis toujours troublée par ces désirs et j'en veux toujours plus. Donc, vous faites votre arbre avec les désirs vains d'un côté et les désirs naturel de l'autre côté, et puis vous voyez que ensuite on va pouvoir faire des embranchements dans la catégorie des désirs naturels. Donc on va avoir nos désirs naturels nécessaires et naturels non nécessaires. On a l'habitude de mettre les non nécessaires dans la catégorie des non nécessaires, le désir sexuel, parce qu'il ne concerne pas l'individu, il concerne l'espèce. Donc au final, c'est pas nécessaire pour l'individu, vous pouvez vivre sans avoir d'activité sexuelle. Par contre, vous ne pouvez pas vivre sans manger ou sans boire. Donc là, on va être dans les désirs nécessaires. Et en fait, donc parmi ces désirs nécessaires, on va avoir des nécessaires pour le bonheur, des nécessaires pour la tranquillité du corps et des nécessaires pour la vie même. Donc les nécessaires pour la vie même, c'est très simple, boire, dormir, manger. Ceux qui sont nécessaires pour la tranquillité du corps, eh bien, ce seront des désirs liés à l'hygiène du corps, l'activité sportive, l'hygiène de manière générale. Et puis, au niveau des désirs nécessaires pour le bonheur, ça, c'est pas très simple. Alors, on a l'habitude d'y classer tout ce qui relève des activités artistiques qui permettent d'être heureux. Et aussi souvent, si on pense à la danse, par exemple, ça produit un effet de bien-être au sein de sa communauté, parce que ce sont des activités qu'on va faire avec les autres. Mais on va aussi mettre évidemment la connaissance, puisque Épicure, c'est un philosophe. Pour être heureux, il faut avoir une activité qui est une activité de reconnaissance des désirs. Donc en fait, la connaissance, elle est utile au bonheur. Cette connaissance, elle me permet de distinguer les bons désirs des mauvais désirs. Donc j'ai besoin de la philosophie et de la connaissance pour pouvoir être heureux. Donc on va classer ça dans les désirs naturels et nécessaires. Je suis naturellement curieux et cette curiosité, elle m'est utile pour pouvoir bien vivre. Après cette petite explication de la doctrine d'Épicure, je vais, comme dans la première partie, passer aux limites de cette conception. Les limites, c'est ce qui va me permettre de passer à ma troisième partie et à la conception qui m'apparaît la plus intéressante ou la plus forte. Je vous rappelle que vous faites strictement ce que vous voulez, mais la logique dans votre argumentation, c'est que vous allez en première partie parler de la thèse qui vous apparaît la moins forte et puis progressivement arriver à la thèse qui vous apparaît la plus forte. Donc il est logique que la thèse qui vous apparaît la meilleure, eh bien, elle apparaisse en troisième partie. Et pourquoi c'est la meilleure? C'est parce que elle permet de dépasser les limites que on a montrées dans les deux premières parties. Donc c'est important d'énoncer la thèse, de bien l'argumenter, mais aussi ensuite de montrer quelles en sont les limites si cette thèse ne vous apparaît pas comme la meilleure des thèses possibles sur ce sujet. Je reprends la lecture. Cette conception a cependant des limites. En effet, le bonheur pour Épicure consiste dans l'absence de troubles, dans la tranquillité. Or, cet état est précaire pour deux raisons. Tout d'abord, en raison du retour cyclique des besoins, les désirs naturels, qui est régulièrement cause de troubles. Ensuite, en raison de l'ennui que peut générer l'absence du désir quand il est satisfait. Nous sommes alors privés de cet aiguillon de la vie et de l'action qu'est le désir. C'est ce qui fait dire à Schopenhauer, dans Le monde comme volonté et comme représentation, que notre vie oscille comme un pendule entre la souffrance et l'ennui. Oui, alors Schopenhauer n'est pas connu pour être un auteur très joyeux, hein, et c'est vrai qu'il a une conception de l'existence ici qui est peut-être un petit peu déprimante. En gros, on vit le plaisir, mais ça n'est qu'une parenthèse entre deux types de souffrances, la souffrance liée au désir, au manque, et la souffrance liée à l'absence de désir. Quand je suis satisfait, je vais être heureux de manière très éphémère, et puis en fait, je vais très vite retomber dans un état, l'ennui, qui est un état où c'est un état d'apathie en fait. L'apathie, c'est l'absence d'émotion, l'absence de passion. Et donc, dans cet état d'ennui, je suis aussi malheureux. Donc, le désir me fait souffrir, mais l'absence de désir me fait aussi souffrir. Je reprends la lecture. En proposant l'ataraxie comme état idéal correspondant au bonheur et en faisant de la limitation des désirs la condition nécessaire de la réalisation de cet état, Épicure propose un idéal, certes accessible, mais générateur d'ennui. On en revient à l'argument de Calliclès dans le Gorgias. L'homme sans besoin est comme une pierre ou un cadavre, sans vie, donc sans bonheur. Comment donc concilier la vie, son mouvement incessant, et le bonheur conçu comme un état durable de satisfaction et de tranquillité? Voilà, donc finalement au terme de cette deuxième partie, on a montré qu'il y a des limites à la conception hédoniste radicale qui sont dépassées ou solutionnées par la conception plus modérée d'Épicure, sauf que celle-ci présente elle aussi des limites, et cela nous amène à notre troisième partie dont je vais lire l'énoncé de la thèse. Concevoir le bonheur comme un état idéal, que ce soit de plaisir maximal ou de tranquillité de l'âme, semble conduire à une impasse. Il faudrait peut-être plutôt changer de perspective sur le bonheur, c'est-à-dire concevoir le bonheur autrement. Deux solutions s'offrent alors à nous pour sortir des impasses de l'éthique hédoniste et de l'éthique tempérante. Transformer les conceptions hédonistes et épicuriennes du bonheur en dépassant leurs limites ou changer radicalement de perspective sur le rapport entre désir et bonheur. Donc, j'ai mis en évidence des limites. Maintenant, je vais essayer d'apporter des solutions en me fondant sur deux doctrines qui sont deux doctrines très différentes. La conception utilitariste du bonheur dans un premier temps et puis la conception de Schopenhauer que j'avais laissée, j'avais utilisé une citation de Schopenhauer, donc, qui était plutôt une citation assez pessimiste, mais on verra que de ce pessimisme, pardon, va découler une façon très originale de repenser le rapport entre désir et bonheur. Je vais lire la première sous-partie, donc, qui porte sur la conception utilitariste du bonheur. La conception utilitariste du bonheur correspond à la première solution. C'est une conception de la vie heureuse qui intègre tendance hédoniste, modération des désirs et altruisme. La question du bonheur d'autrui et de la morale étant finalement absente des deux éthiques précédemment étudiées. Dans l'utilitarisme, John Stuart Mill définit ainsi la vie heureuse. La vie heureuse n'est pas une vie toute de ravissement. Elle comprend seulement quelques instants de cette sorte dans une existence faite d'un petit nombre de douleurs passagères et d'un grand nombre de plaisirs variés, avec une prédominance bien nette de l'actif sur le passif. Existence fondée dans l'ensemble sur cette idée qu'il ne faut pas attendre de la vie plus qu'elle ne peut donner. Alors, je ne vous ai pas donné de texte sur l'utilitarisme, mais cette citation et son explication est amplement suffisante pour comprendre la spécificité de cette doctrine. On voit au tout début de la citation que John Stuart Mill répond de manière très claire à la question de notre sujet « Faut-il satisfaire tous ses désirs pour être heureux ?» puisqu'il dit que la vie heureuse n'est pas une vie toute de ravissement. On ne peut pas échapper à tous les malheurs, on ne peut pas être dans le plaisir permanent. Ce qui va caractériser cette conception du bonheur, ça va être une question de proportion un peu mathématique entre ces différents éléments de la vie, les malheurs, le ravissement, ou autrement dit la satisfaction des désirs, et c'est l'expression la prédominance de l'actif sur le passif qui met en évidence cette idée de proportion. À partir du moment où je serai satisfait dans une plus grande proportion que malheureux, à ce moment-là, j'aurai une vie que je pourrai considérer comme heureuse. Et un autre point intéressant, c'est que John Stuart Mill insiste sur la variété des plaisirs. Il s'agit, vous avez ça à la quatrième ligne de cette citation, donc il y a des douleurs passagères, mais aussi un grand nombre de plaisirs variés dans la vie heureuse. Donc les plaisirs, oui, mais des plaisirs qui sont diversifiés. Être passionné, c'est-à-dire ne rechercher qu'un type de plaisir, n'est pas considéré par John Stuart Mill comme une vie qui sera une vie pleinement satisfaisante et heureuse. Donc, pour résumer, une vie heureuse, dans la conception utilitariste, c'est une vie où il y a une prédominance du plaisir sur le déplaisir, mais aussi une variété, une diversification des plaisirs afin d'échapper à une forme finalement de dépendance ou d'addiction à une passion unique. Je reprends la lecture du corrigé. Pour Mill, l'idée de vie heureuse se substitue donc à l'idée de bonheur comme état idéal. Le bonheur s'évalue désormais à l'échelle de la vie, en adoptant une perspective large et réaliste sur l'existence. La vie heureuse est définie comme une vie où les douleurs sont minimisées, où les plaisirs sont maximisés et où la variété permet d'éviter la dépendance, c'est-à-dire la prédominance de certaines passions qui accaparent la volonté de l'individu. L'utilitarisme intègre également la dimension du bonheur d'autrui. C'est en quelque sorte un eudémonisme transindividualiste. Il définit une éthique fondée sur la recherche du maximum de bonheur pour le plus grand nombre. Et dans ce plus grand nombre, Mill inclut tous les êtres capables d'éprouver du bonheur ou de la peine, donc une grande partie des animaux. Le bonheur recherché n'est donc pas purement individuel ou personnel, mais collectif. C'est pourquoi l'utilitarisme se présente comme une doctrine équilibrée qui dépasse les limites respectives de l'hédonisme et de l'épicurisme en transformant la définition du bonheur qui leur est commune tout en conservant la référence au plaisir et donc au désir. Alors avant de passer à Schopenhauer, j'insiste sur le dernier point crucial de la doctrine utilitariste. Contrairement à l'épicurisme, qui reste très individualiste dans sa conception du bonheur, l'utilitarisme, au contraire, intègre l'individu dans sa communauté. Ce que je dois rechercher, c'est pas seulement mon bien, mais c'est le bien pour le plus grand nombre de personnes. En quelque sorte, le bonheur est contagieux et j'ai intérêt à ce que à n'être pas le seul heureux au sein de ma communauté. J'ai intérêt à vivre dans une communauté d'individus également heureux. Donc, l'utilitarisme philosophique, ce n'est absolument pas ce qu'on pourrait en penser par rapport à l'usage qu'on fait aujourd'hui du mot utilitariste. Ce n'est pas du tout un égoïsme, c'est une recherche collective du bien pour chacun et pour tous. L'utilitarisme, vous voyez que ça n'a rien à voir non plus avec le fait d'utiliser les autres. Il s'agit en fait de rechercher l'utile. L'utilitariste, c'est celui qui cherche l'utile. Et qu'est-ce que c'est que l'utile? Eh bien, c'est ce qui va procurer du bonheur, pas simplement à moi, égoïstement, mais à tous. J'espère avoir clarifié cette partie sur l'utilitarisme. On va passer à la deuxième solution qui repose sur le texte de Schopenhauer. Donc, je vous invite à faire une pause dans le corrigé, à aller lire ce texte, pareil. Essayez de faire un petit repérage, essayez de vous approprier ce texte. Et puis, ensuite, donc, on revient au corrigé. Je reprends la lecture. La deuxième solution aux impasses précédemment évoquées serait d'aller plus loin encore et d'éliminer complètement la référence au désir et au plaisir de la définition du bonheur. Pour être heureux, il faudrait profiter de ce que l'on a, jouir de ce que l'on possède, plutôt que de chercher à obtenir ce dont on manque, satisfaire ses désirs. Dans Le Monde comme volonté et comme représentation, Schopenhauer nous offre une vision pessimiste de l'existence, oscillant entre souffrance, présence du désir, et ennui, absence de désir. Mais dans l'art d'être heureux, il nous montre que la vie heureuse réside en fait dans un changement radical de perspective sur le bonheur et sur l'existence. Si nous manquons le bonheur, c'est parce que notre attention se porte sur ce qui nous manque et que notre volonté se focalise sur le plaisir que nous tirerons peut-être à l'obtenir. Pour être heureux, il faudrait au contraire porter notre attention sur ce que nous possédons et apprendre à en profiter en imaginant le malheur qu'occasionnerait sa perte. Alors, nous serions amenés à prendre soin de ce que l'on possède et à en jouir, c'est-à-dire à en profiter pleinement. Alors, l'idée de Schopenhauer ici, elle n'est vraiment pas très difficile à comprendre. Il s'agit de détourner son attention de ce qui, en général, nous préoccupe trop, à savoir nos désirs et le manque qui nous pousse à chercher à satisfaire ces désirs, et de retourner cette attention pour voir, réaliser, se rendre compte ou prendre conscience des biens que nous avons et de la chance que nous avons et que parfois nous ne voyons tout simplement pas. Et essayez là de vous projeter dans une situation que vous avez peut-être vécue où en effet vous avez pris conscience de la valeur de quelque chose que vous aviez une fois que vous l'avez perdu. Souvent, on ne se rend pas compte à quel point on a, par exemple, la chance d'être en bonne santé tous les jours, la plupart du temps, et puis le jour où on est malade, voire très malade, eh bien là, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas su profiter des moments où nous étions en bonne santé et nous souffrons. Et c'est le cas pour la santé, mais c'est aussi le cas pour beaucoup d'autres choses. Donc Schopenhauer nous demande d'utiliser notre imagination non pas pour faire ce que nous faisons d'habitude, c'est-à-dire se projeter dans l'avenir, un avenir meilleur où nos désirs seront réalisés, mais pour au contraire imaginer ce qu'occasionnerait en termes de souffrance la perte de ce que nous possédons afin de retrouver la valeur de ces possessions. Et la conséquence, l'heureuse conséquence de cette nouvelle prise de conscience, c'est que nous serons plus attentifs à ce que nous possédons. Nous prendrons soin de ce que nous possédons, des amis que nous possédons, de la famille que nous possédons et que parfois nous délaissons. Vous êtes des adolescents, donc il vous arrive régulièrement d'être un petit peu ingrat envers vos parents, eh bien ça justement, le fait d'imaginer ce que serait leur perte, c'est peut-être l'occasion de changer parfois d'attitude ou de perspective, d'être un peu moins ingrat, d'être un peu plus reconnaissant, de faire un petit peu plus attention, d'être un peu plus attentif, d'être un peu plus gentil et de dire aux gens, à vos proches que vous aimez et bien que vous les aimez par exemple. C'est donc sur cette jolie perspective que s'achève la troisième partie de mon développement. Je passe à ma conclusion, je fais le bilan de ma réflexion et je réponds à mon sujet. C'est parti. Quand nous nous demandons s'il faut satisfaire tous nos désirs pour être heureux, nous nous posons la question de l'éthique qu'il faut adopter dans une logique eudémoniste. Si on fait consister le bonheur dans la satisfaction des désirs, qu'elle soit totale ou partielle, comme c'est le cas dans l'éthique hédoniste et dans l'éthique tempérante, nous sommes face à des impasses qui font du bonheur un idéal qui, au mieux, peut être réalisé de manière fugace dans des instants de bonheur, au pire, ne sera jamais réalisé tant les exigences sont grandes. Pour sortir de ces impasses, peut-être faut-il penser le bonheur autrement, non comme un état à rechercher, mais comme un art, c'est-à-dire une activité de création, ayant pour but de faire de notre existence telle qu'elle est, présentement, une vie heureuse. Il faut pour cela s'attacher non à ce qui nous manque et que l'on désire, mais à ce que l'on a déjà et dont on peut jouir. Il faut se soucier et prendre soin de ce que l'on possède, plutôt que de rechercher vainement à satisfaire tous nos désirs.